in the session. Everybody slow down, slow jam. In the session, everybody slow jam, slow jam. In the session, everybody slow down, slow jam.
Vous êtes sur les ondes de Radio G et désormais à l'écoute de l'Oreille Curieuse. Bienvenue, nous sommes lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine d'émissions consacrées aux découvertes, à la création et aux actualités locales. Alors je suis désolée pour les aficionados du Flash RFI, il a sauté dans les interspaces de la radio. On le retrouvera demain à 18h. En tout cas, ce soir, comme chaque lundi, une semaine sur deux, vous avez rendez-vous avec votre goûter de pensée, le croque philo. On retrouvera Émilie en deuxième partie d'émission pour une nouvelle thématique. Avant cela, il sera question de musique grâce à Mehdi qui revient sur la sortie récente d'un album. Ce soir, on aura la gouache avec Erwan. Quant à moi, je vous ferai une nouvelle proposition d'écoute dans la Selecta Podcast. On est ensemble pour les 40 prochaines minutes et je vous espère en forme derrière vos postes de radio. Derrière le micro et en studio, c'est Anne-Li. Il y a bien sûr Mehdi qu'on va retrouver juste après. Salut Mehdi.
Salut.
Et Émilie qu'on va retrouver aussi qui est en ligne. Je sais pas si tu nous entends, Émilie. Bon, j'ai tenté
oui,
un peu trop.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
J'ai prévenu personne que j'allais dire bonjour à tout le monde depuis le début. La citation que je partage avec vous, qui est une citation presque éternelle, c'est « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien de ce bon vieux Socrate ». Voilà, je pense que ça vous parlera. Et pour ouvrir cette émission, on écoute « Auf Wiedersehen », c'est de l'allemand. Et c'est le dernier titre de Mansfield Tia, je ne sais pas comment on prononce le nom de ce groupe, mais il est très bien. C'est Rebecca Warrior et Carla Pallone. Et ce titre annonce la sortie de leur cinquième album, qui s'appellera Monument Ordinaire et qui sortira en février 2021.
Ça n'est plus mon problème. Non, tu ne
maintenant, c'est l'heure de la Selecta Podcast, une chronique où je vous propose de découvrir des podcasts natifs, c'est-à-dire qui ne sont pas passés par la bande FM. Mais je me dis toujours que les personnes qui aiment la radio, qui aiment le son, pourraient être intéressées. Et puis je l'ai choisi, vraiment, je l'ai trié sur le volet. Alors ce soir, j'ai choisi de vous parler d'un podcast qui n'est plus alimenté. Il n'y a pas de nouveaux épisodes qui existent, mais les épisodes qui existent déjà me semblent très intéressants. Ça s'appelle Magicos et ça a été produit par Slate, le site d'information en ligne. Et derrière ce podcast, on retrouve un magicien, Guillaume Natas. Alors là, on parle de magie, pas faire des sorts, les pentacles, les épées, etc., les chaudrons, pas du tout. C'est la magie, faire disparaître des cartes, le mentalisme, toutes ces choses-là, quoi. Le cabaret. Et donc Guillaume Natas est magicien pratiquant lui-même, magicien amateur, mais bon magicien quand même. Et en fait, il nous fait complètement entrer dans le monde de la magie avec des entretiens, ça dure une heure environ, sur des thématiques très variées. Ça pouvait être par exemple mentalisme, voyance, où est l'arnaque ? Qui est le plus grand magicien du monde ? Ou un job enchanteur ? Ou bien pourquoi les Français sont le pire public vis-à-vis de la magie au monde ? Ou bien la place des magiciennes dans le monde de la magie ? Ou alors comment on invente des tours de magie ? Moi, ce que j'ai aimé dans Magicos, c'est que c'est plein de questions auxquelles j'aurais pas du tout pensé. Ou même écouter une heure de podcast sur la magie, en fait, j'y aurais pas du tout pensé. Et c'est vraiment sur le mode de la conversation. Et en fait, ça rend vraiment accessible cet univers qui m'était complètement inconnu et que j'ai en fait trouvé très riche. Et qui en fait va avoir plein de domaines en dehors de comment on manipule les cartes techniquement, etc. Le rapport humain, comment on va construire un récit, un spectacle, qu'est-ce que c'est en fait la magie ? C'est du spectacle vivant et donc comment ça se construit. Enfin, moi j'ai trouvé ça très vraiment intéressant et puis ça a ouvert ma curiosité sur plein de domaines. Des questions ? Pas de questions ? J'ai pris des notes dans le désordre, vas-y Mehdi.
Les Français, c'était le pire public pour la magie en fait.
Alors je peux vous spoiler un peu le récit, mais en fait ce qui ressort de cet échange-là, c'est qu'en France, on a toujours envie de... On croit que les tours de magie, c'est pour comprendre comment ça marche.
Okay.
Et il apparaît que si tu montres un tour de magie à un ou une Française, il va te dire « Ouais ok, mais comment ça marche ? Il y a un truc, c'est quoi le truc ?» Alors que le propos de la magie, ça peut être tout simplement, c'est une expérience, on comprend rien, vraiment c'est bluffant, on ne sait pas d'où ça vient. Et quelque part, tant pis, tant mieux, au contraire, de se dire, j'ai ce moment-là, je ne sais pas d'où ça vient, ça me surprend à fond et juste je vais profiter de cette émotion qui me fait vivre quelque chose que j'aurais pas traversé autrement. Voilà, ça remet un peu de magie, quoi.
C'est vrai.
C'est vrai qu'on a tendance à être dans le truc. Donc c'est à la fois très simple, très précis, mais vraiment accessible. Et puis si on s'intéresse à la magie, qu'on a des enfants, des adultes autour de nous qui ont envie de devenir magicien, je pense que ça peut être un bon pied d'entrée. Moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir plein de spectacles, ça a changé aussi ma perception des choses. Je redonne les infos, si c'était clair pour tout le monde, ce Magicos. Donc un podcast, il n'y a pas de nouveaux épisodes, il y en a 8 qui sont vraiment hyper intéressants. Produit par Slate et animé et proposé par Guillaume Natas. Voilà, c'est tout pour cette Selecta podcast de ce soir. Et c'est toi Mehdi qui a prévu une chronique ?
Ouais.
Allez.
Alors bonjour auditrices et auditeurs, c'est moi Mehdi. On partage encore une fois une chronique sur la musique. Et aujourd'hui, dans l'Oreille Curieuse, on part en voyage dans l'univers du chanteur-compositeur aux multiples facettes, voix et onomatopées Erwan. Donc il était chanteur, compositeur et auteur dans le groupe Explosif Java qui s'est éteint en 2010.
Comme un grand pas pour l'ébriété.
Java, c'est pas de la vente à l'eau.
Java,
c'est du rock'n'roll.
Java,
c'est le vrai son parigot. La devise,
sex, accordéon et alcool.
Java,
c'est pas de la vente à l'eau.
Java,
c'est du rock'n'roll.
Il est aussi chanteur dans le groupe Soviet Suprême avec le surnom de Sylvester Staline. Franchement, ce blast, fallait le trouver.
C'est clair.
Malgré l'histoire de ces deux groupes, aujourd'hui, on s'intéresse à la carrière solo de Erwan qui a sorti le 30 octobre son nouvel album La Gouache. Un nom qui nous laisse entrevoir une belle palette de couleurs. Mais avant de passer au plat principal, commençons par une succulente entrée en matière. La carrière solo d'Erwan commence en 2006 avec un album que j'aime énormément, Radio Cortex.
Vous écoutez Radio Cortex, la radio pirate,
la radio pirate.
La radio pirate.
Ça crache dans les wesh, on fait ses dents dans les câbles, c'est comme ici.
un album magnifiquement produit, conceptuel, aux ambiances ultra diversifiées. Bref, un album franchement unique avec le ton ironique, sarcastique, humoristique et profond qu'on aime chez Arwan, avec des textes mêlant du satire du capitalisme, comme le titre « Chéri FM », le titre « Méchant petit bourgeois » ou bien le titre « Le recyclé ».
Caramel, j'ai encore fini dans la poubelle.
Je le recyclé.
J'ai pourtant eu mon heure de gloire à Los Angeles. J'étais silicone greffé sur les seins d'une déesse.
On a aussi des textes engagés avec politique et manigance, ou bien des textes sur la sexualité avec C'est le caramel sur la cerise, que moi-même j'écoutais quand j'étais petit chez mon père sans me rendre compte des paroles très osées. Après Radio Cortex, on suit Radio Cortex 2 en 2018. L'aventure continue en 2012 avec l'album Peau Rouge, un album aux couleurs différentes de Radio Cortex, plus acoustique, dans un style plutôt jazz manouche, balle musette. Un morceau que j'adore sur cet album, c'est le CRS Méloman.
Ça me donne la chair de poule, l'envie d'un prog et bien style. Alors je cogne sur la foule comme un solo de Buddy Miles. Je suis un CRS Méloman. C'est pas parce que je joue du bourdin que je suis le dernier des points. Je suis un CRS mélomane. Quand j'entends ces slogans de cortège, monocorde et sans âme, j'ai envie de coller mes arpèges.
Et en 2017, il sort donc son album Curling, toujours aussi qualitatif que les albums précédents. Et nous voilà arrivés en 2020, nous sommes le 30 octobre et Erwan sort l'album La Gouache. Fidèle à lui-même, au titre et à la pochette de son album, le projet est haut en couleur. On rentre dans l'immersion avec le titre Padrino du rap musette. On reconnaît dans ce titre l'inspiration du hip-hop actuel, la trap. Erwan prend un flow saccadé, mais garde des instruments acoustiques et donne un côté musette et festif, nous rappelant son ancien groupe Java. Le deuxième titre reprend aussi les codes de la trappe au niveau de l'instrumental. On peut clairement observer qu'Arwan s'intéresse beaucoup à ce qui se fait en matière de rap actuel, avec bien sûr sa touche personnelle. J'aimais les Nippons, elle adorait la Chine, comme dirait Arwan, une passion sans doute pour le Japon. Voici un extrait du deuxième titre, Contre-Pitre.
S'appelait Sabine, paraissait taquine. J'aimais les Nippons, elle adorait la Chine. Elle rêvait d'avoir un maçon du cœur. Garçon, un génépi, que ma joie demeure. Ni Dieu, ni maître.
Ni Dieu, ni maître.
Moi, je contre-pète.
T'es qu'à contre-pitre.
Ni Dieu, ni maître.
Ni Dieu, ni maître.
C'est au cœur du bouillon qu'on réveille la bête. Ni Dieu, ni maître.
Ni Dieu, ni maître.
Moi, je contre-pète.
T'es qu'à contre-pitre.
Ni Dieu, ni maître.
Ni Dieu, ni maître.
C'est en touchant le fond que naissent les plus grandes quêtes. Chez elle, je voulais me faire pêcher l'élite. Marre de ronger des airs à la mode, des poules anti-mythes. Et le clan sortait de sa grotte. Pour bien dîner, faut être peu. Des frites, ça te botte.
On a ensuite le troisième titre, La Gouache, avec un enchaînement de punchlines. L'album commence donc avec trois titres orientés rap à la sauce Erwan. Le quatrième titre, Des Humains, en feat avec Salif Keita, qui est un chanteur et musicien malien au succès international et connu dans la musique du monde. Je vous laisse écouter ça.
Pied. Des humains, 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 tétanisés. Des humains, 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 tétanisés.
Des femmes là. Never you ever
Au fur et à mesure d'écouter chaque titre, je me suis rendu compte que c'était un album, que cet album était très engagé, du moins un peu plus engagé que les autres, et qu'il parlait de thématiques récentes telles que les réseaux sociaux, par exemple avec le titre Hashtag ta gueule.
De terre. Tu vis l'instant sur Insta et tapines du selfie. Réponds tes colos story, mais dans quel monde fuit-on? Tu n'es que vide, abyss à l'entrepôt de baie. Au niveau zéro d'un tuto sur YouTube. Ta gueule, tu pollues mon cerveau. Ta gueule, marre de tous les réseaux. Ta gueule, tu pollues mon cerveau. Ta gueule, ta gueule. Tu passes ton temps à pomper dans le foyer qui t'a trompé. Tu voudrais bien les pomper, mais t'es juste à pomper. Ça lèche du billet, pas un euro dans le barillet. Ça suce comme des sangsues, le son de l'oncle, ça me suffit. Bonzo, envoie la ganzou, dis youyou. Sous ton chapeau, l'oncle Tom chante, tata yo-yo. Rien n'a changé depuis le temps des yéyés. On est des joujous, les yo-yo, des tamponneurs de billets. Tape ta gueule.
Une des caractéristiques dans cet album La Gouache est le côté festif musette que l'on retrouvait beaucoup dans son ancien groupe Java, avec la présence prépondérante de l'accordéon. Mais pour la première fois, on retrouve l'autotune dans le titre Cool Cool, à petite dose bien sûr. On ressent toujours une inspiration sur la mode récente en matière de musique, mais on sent aussi une certaine ironie dans la manière de reprendre ces nouveaux codes. J'ai l'impression en fait qu'Arwan s'est approprié certains codes de la trap pour en faire une parodie à son image. Je ne vais pas vous spoiler chaque titre parce que c'est un album qui mérite qu'on prenne son temps pour l'écouter en entier. Après écoute et analyse, en tout cas, je trouve quand même qu'on a un album un peu moins diversifié que les précédents. Un album axé plus hip-hop, musette, accompagné de quelques titres world. On retrouve des codes du hip-hop actuel de la trap, et ça, en fin de compte, c'est ce que j'ai plutôt aimé. Son premier album, Radio Cortex, était pour moi d'un niveau supérieur par son originalité. Mais comme je l'ai dit, Erwan est un chanteur-compositeur à multiples facettes, et je pense que cet album plaira beaucoup justement parce que Erwan a su évoluer et s'adapter tout en gardant son style. C'est donc pour ma part un album très réussi. Pour conclure, ce que j'aime dans l'inspiration de Erwan, c'est qu'il écrit des textes sur des sujets très différents, très loin de la pop qui reprend à outrance des sujets comme l'amour, le sexe, l'argent, les vacances au soleil. Il suffit de regarder les titres de ses chansons pour s'en rendre compte. Je cite quelques exemples. Donc il y a le titre « Le plus vieux métier du monde ». Il y a aussi le CRS Méloman qui fait l'analogie entre le métier de CRS et faire de la musique. Il y a aussi le titre « Les quatre accords Toltec » qui nous parle d'un best-seller du développement personnel. Voilà, on peut voir qu'il s'intéresse beaucoup au monde autour de lui et aussi au monde d'ailleurs. Le fait de parler de toutes ces choses crée un contact unique avec son public. Il mêle à tous ces sujets une musique ultra diversifiée. Il emprunte à tous les genres et styles pour en faire de surprenantes fusions, et ce qui est cool, c'est que ça sonne super bien. Il arrive à garder son style si particulier tout en se diversifiant. Une des caractéristiques d'Erwan est son talent de conteur. Ses chansons sont très expressives, soutenues par la volonté d'une musique qui s'adapte au texte. Les compositions d'Erwan se développent tout au long du morceau. Il y a de multiples changements d'ambiance, beaucoup de variations, des beaux solos. Ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, on a vraiment l'impression d'écouter une histoire et de voyager de l'intro jusqu'à la toute fin. On passe par plusieurs palettes de sensations, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans sa musique, en comparaison avec aujourd'hui où les instrumentales sont très répétitives, où il n'y a plus de solo de musiciens, ou alors ils sont pour ma part beaucoup trop calculés ou impersonnels. Le fait d'avoir de la surprise, même après plusieurs écoutes d'un même titre d'Erwan, excusez-moi, est un réel plaisir. J'espère vous avoir donné envie d'écouter le dernier album La Gouache d'Erwan, et qu'il vous donnera, comme moi, plaisir, réflexion et voyage. Vivement la fin définitive du Covid-19 que l'on puisse voir en concert nos artistes préférés ou artistes inconnus. En tout cas, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures dans l'oreille curieuse, et on se quitte avec le morceau « Le CRS Méloman » qui était présent déjà sur l'album « Peau Rouge » en 2012 et qu'Erwan a repris dans une toute nouvelle version de jazz dans l'album « La Gouache ».
J'en ai marre de taper en binaire. Moi j'aime le bruit de la matraque quand il frise la caisse claire, de belles chevelures délicates. Rien de mieux quand on se défoule d'une longue tignasse de babacou. Ça sonne quand même un peu mieux qu'un lascar à capuche sans cheveux. Et pour le solo de trompette, une bonne gazeuse dans les mirettes, ça vous déclenche un bruit strident qui vous caresse les tympans. Je suis un CRS mélomane, un amoureux de John Coltrane. C'est pas parce que joue du Gourdin que je suis le dernier des poumons. Quand le bruit des bottes sur le pavé mêle au son des boucliers et que la gazeuse vous pique les yeux, moi j'atteins la menotte bleue et ça me donne la chair de poule, l'envie d'improviser un style. Alors je cogne sur la foule comme un solo de Buddy Miles. Je suis un CRS mélomane, un amoureux de John Coltrane. Pas parce que je joue du Gourdin que je suis le dernier des bourrins. Je suis un CRS mélomane. Quand j'entends six le grand cortège monocorde et sans âme, j'ai envie de coller mes arpèges.
Merci beaucoup Mehdi pour cette ambiance jazzy et de nous avoir donné envie de réécouter tout Erwan. Vous êtes bien sûr à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur le 101.5 FM, la fréquence de Radio G. Et maintenant, on va retrouver le Croque Philo, la chronique dédiée à la philosophie avec Émilie. Émilie, tu es avec nous ?
Tout à fait. Bonsoir, rebonsoir à toi Annie, bonsoir Mehdi, tu es encore là.
Mehdi t'entend mais de l'autre côté de la cloison.
D'accord, et bonsoir à tous évidemment, je suis ravie de vous retrouver pour un croque-philo aujourd'hui consacré au conte. Alors pas tout à fait au conte de Noël, mais le conte revêt des formes tellement variées et témoigne de tant de diversité culturelle qu'il peut capter l'attention des enfants comme celle des grands. Et il peut nous apprendre ou nous faire comprendre des aspects du monde, nous faire rêver, se partager, tout en nous faisant voyager dans le temps et l'espace entre réalité et merveille. Mais vous vous demandez peut-être quel rapport avec la philosophie.
Je me pose la question.
On distingue des sous-catégories. Pour les contes, et on entend parler tantôt de contes de fées, tantôt de contes réalistes, initiatiques, fantastiques, vous vous rappelez peut-être de ce d'Hoffmann, horrifiques, érotiques, mais aussi philosophiques. Et nous devons le plus célèbre d'entre eux, le plus célèbre des contes philosophiques, à Voltaire, avec l'ingénu, Zadig ou la destinée, ou encore, bien sûr, Candide. Ce genre est né au XVIIIe siècle, et au travers d'une histoire fictive, il critique la société ou le pouvoir en place et vise à faire entendre des idées dont la portée est philosophique. Ces récits mêlent la parodie à l'argument, mais gardent les codes du conte, qui vont à la fois universaliser le récit en ne contextualisant pas directement l'époque, grâce à des formules comme « il était une fois »,« naguère encore ». Et il va se construire comme les contes, avec une mise en jeu de personnages que nous accompagnons dans leurs péripéties jusqu'à la fin de l'histoire, fin qui empruntera souvent à la fable sa visée morale. Donc la fable étant un autre genre littéraire, populaire déjà dès l'Antiquité grecque avec Ésope, et que Jean de La Fontaine, bien sûr, reprendra au XVIIe siècle, soit au siècle précédent, les lumières philosophiques contées de Voltaire. Cette forme donc de conte philosophique fut importante car en amont de la Révolution, elle a marqué la possibilité de la satire politique et sociale en limitant les risques pour leurs auteurs de procès, d'arrestation, de censure. Et on y retrouve les codes des récits merveilleux ou d'aventure, mais aussi de la caricature, de l'ironie, de l'humour noir. On trouve donc à l'aube de la Révolution de courtes fables ou des contes. Parfois pas très très évident de distinguer les deux parce que les récits voyageant étant retravaillés, reproposés dans l'histoire, parfois la fable courte et le conte peuvent un peu s'identifier l'un à l'autre. Et donc on a retrouvé ces récits qui constituent un support politique et un destiné à éclairer le peuple et à mobiliser l'énergie révolutionnaire au XVIIIe. Parmi les auteurs de l'époque, il y a Sylvain Maréchal, qui était un républicain, admirateur des philosophes de Lumière, qui a publié un an avant la Révolution française, Apologue moderne à l'usage d'un dauphin, qui s'adressait, un petit recueil, qui s'adressait implicitement au fils du roi Louis XVI. Ses écrits ont été repris depuis par Marc Céasseau, un auteur contemporain de littérature jeunesse, sous le titre « Petit conte pour une révolution ». Dans ce tout petit conte que je vous propose de lire, on retrouve les ingrédients du conte. L'île isolée, les temps immémoriaux des lignées familiales, patriarcales, le sage vieillard de la communauté contre la volonté d'autorité et de pouvoir de l'étranger, et la morale, souriante à la fin, qui renvoie à des temps qui courent encore. Ce petit conte est intitulé, tout petit conte, le contrat social. Plusieurs familles habitaient une île isolée. Cloîtrée dans son domaine, chacune se gouvernait elle-même sous l'œil du plus ancien des pères. Un jour, un étranger échoua sur la côte de cette île. Après l'avoir parcouru de long en large, il parvint à rassembler les chefs de famille et leur tint ce discours. « Mes amis, vos enfants et vous paraissez vivre heureux. Mais ce bonheur n'est qu'une illusion. À la première dispute, vos familles peuvent s'armer les unes contre les autres. À quel tribunal vous adresserez-vous pour régler ce conflit? Croyez-moi, vous avez besoin d'un souverain. Placé au-dessus de vos intérêts personnels, il dictera des lois justes qui vous permettront de dormir en paix. Mais ce souverain ne doit pas être désigné au hasard. Trouvez-en un qui vous soit étranger par le sang. Ainsi, vous serez certain de la partialité de ses décisions. » Un vieillard interrompit le beau parleur. « N'en dites pas davantage. Nous devinons le reste. Écoutez-nous, à votre tour. Nous avons vécu jusqu'à présent dans la plus grande harmonie. Cependant, votre avis n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous n'avons rien à perdre à le suivre. Comme vous êtes le seul étranger, nous acceptons de vous prendre pour roi, à une condition. Laquelle ? Étant responsable des lois que vous proposez, vous devez l'être aussi de tous les malheurs qui vous arriveront. En conséquence, vous paierez de votre tête le premier meurtre arrivé sous votre règne. Acceptez-vous ? Le visiteur ne daigna pas répondre. Tournant les talons, il sauta dans la première barque venue et s'éloigna du rivage dans un jet d'écume. certains prétendent qu'il rame encore. Alors, le conte philosophique demeure un genre, vous voyez, assez typé, propre à une période historique française assez délimitée en amont de la Révolution. Mais qui oserait dire que Le Petit Prince de Saint-Exupéry, traduit dans plus de 300 langues différentes, ou le récit d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, n'ont pas de portée philosophique? On a déjà d'ailleurs fait un petit clin d'œil au Petit Prince dans une chronique précédente. La philosophie n'excède pas, ne déborde-t-elle pas de cette forme de conte dit philosophique pour se retrouver finalement dans d'autres, si ce n'est dans toutes les formes du conte qui, par essence, réunit invariablement le populaire et le merveilleux? Qu'y a-t-il au fond de commun entre un conte des frères Grimm? Nous connaissons les frères Grimm, qui ont été ces fameux collecteurs de contes en langue allemande au XIXe siècle, et un conte Wolof, ou mandingue d'Afrique de l'Ouest. On peut aussi se remémorer les contes qui ont compté pour nous, qu'on nous a contés. Pour moi, c'était Bambi, raconté par mon papa, qui faisait varier la fin régulièrement, pour la rendre souvent un peu moins triste. Et pour toi, Annie, quels sont les contes qui t'ont marqué ou que tu aimes?
Eh bien, là, comme ça, moi, ça me fait penser à l'histoire de Baba Yaga, la sorcière, ou la Reine des Neiges. Mais je sais que j'ai des souvenirs comme ça de ces contes-là, mais je crois que je pourrais pas les résumer. Je regarderai. Ouais,
Baba Yaga, c'est intéressant parce qu'on retrouve la légende de Baba Yaga à la base, qui est russe et qui, finalement, a depuis une vingtaine d'années, je crois, ce conte-là a pris des formes différentes et c'est beaucoup partagé. Et je ne sais pas s'il n'y a pas eu d'ailleurs même des sortes d'adaptations à l'image, que ce soit série ou autre, mais c'est un conte effectivement qui a pris, qui a voyagé, qui a continué à voyager ces dernières années.
Oui.
Alors j'imagine que nos éditeurs en ont tous un ou plusieurs qui les ont suivis dans leur enfance ou même à l'âge adulte. Hein. Parce que quels que soient les contes, ils révèlent une part d'universel et semblent receler les secrets qui nous parlent à tous du monde dans lequel nous évoluons. Tous se situent à la croisée de la légende pour l'aspect merveilleux, surnaturel et du mythe, en marquant la force de l'intemporalité de la nature des choses. Mais tous visent à transmettre du sens. Il y a donc avant tout de la transmission dans la tradition du conte. Et cette transmission, même avec l'écriture, fait évoluer le conte en fonction de l'époque, du public auquel il s'adresse, de la culture d'où il est issu. Mais c'est par l'oralité qu'il varie le mieux et qu'il a longtemps voyagé, qu'il voyage encore. Les cultures où perdure la tradition du conte comme récit populaire d'initiation ou de tradition sont souvent celles où l'oralité n'a pas été totalement, d'ailleurs, engloutie par l'écriture. Dans les sociétés dites traditionnelles, de plusieurs régions d'Afrique, de Russie ou de l'Inde, le conte garde une place de choix dans l'éducation. Dans nos traditions plus locales, régionales, le collectage des récits a été plus marqué par le folklore. Par exemple, le breton, auvergnat ou provençal, pour ne citer que les plus connus, pour expliquer les conditions de vie, les travaux de leurs habitants. Même si aujourd'hui, on assiste à une forme de renaissance du conte illustré, nous y reviendrons. Mais les contes ont toujours la volonté de saisir le monde par des images, que ce soit donc à l'oralité, avec l'oralité ou avec l'écriture. Et l'écriture elle-même, d'ailleurs, commence toujours par des images, partout dans le monde, puis c'est l'usage qui en détermine ensuite l'évolution du sens, comme l'évolution d'une langue. Pour Rousseau, d'ailleurs, ce n'est pas la raison qui fonde la langue et ses usages qui la fait évoluer, mais c'est bien les sentiments et les passions. On aurait donc moins besoin, selon lui, de la raison que de mettre en image nos sentiments. Car comme le dit Rousseau dans l'origine des inégalités parmi les hommes, l'homme n'a pas commencé par penser, mais par sentir. Ce que les hommes comptent, racontent, c'est une morale, car ils y affichent les rapports sociaux qui sont les leurs. Le conte, quelle que soit sa langue, en ce sens exprimerait l'essence même de la parole, celle qui sert de révélateur de nos façons d'être au monde. Et cela, en cela, on peut dire que les contes pour enfants que nous connaissons bien, comme Cendrillon, Peter Pan, Blanche-Neige et bien d'autres, même s'ils ont été revisités par d'autres auteurs, jusqu'à Walt Disney, ont été tous inventés avant tout pour prévenir les enfants de la cruauté du monde. Ils ont d'ailleurs des fins terriblement glauques dans leur version originale. On ne connaît souvent que très rarement. Le conte donne à voir car il fait parler les images. Ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure du règne de l'image pour nos livres illustrés comme celles sur nos écrans de télé ou de cinéma, les contes tiennent encore une bonne place. D'ailleurs, nombreux sont les contes aujourd'hui qui cherchent à sensibiliser les enfants, à les aider à comprendre le monde fait par les hommes dans leurs différences de culture, d'identité. Ils répondent aussi souvent à leurs questions sur la mort, la sexualité, sans rationaliser, sans jugement. Le conte est donc aussi témoignage de culture. Et au-delà des langues, il se traduit, se transmet avec ses variantes. Il reste un bon moyen de connaître la culture d'un pays, un passé, des traditions. Mais la façon dont les habitants d'un pays font vivre leur conte varie également. Par exemple, dans les pays d'Europe du Nord, et précisément en Scandinavie, la place du conte est plus grande que chez nous et toujours assez bien partagée dans la culture populaire. Elle y est enseignée à l'université comme une part de l'ethnologie avec les musiques, les danses du pays. Et l'ensemble de ces traditions est d'ailleurs encore vivante. Il y est souvent considéré, par exemple, que les livres pour enfants ne s'adressent pas exclusivement à eux, mais aussi aux adultes, qui sont nombreux à les collectionner. Ce genre littéraire, il est mieux reconnu que chez nous. Alors là, je mêle les contes traditionnels, populaires et les contes pour enfants, parce qu'il me semble qu'ils ont bien un usage commun, qui est celui de raconter la culture d'une société tout en l'animant. Dans les contes, on notera aussi que s'il n'y a pas toujours de figure du philosophe, il y a néanmoins toujours la présence du sage, incarné par l'un des personnages. Et la figure de la sagesse, dès l'Antiquité, peut être indifféremment celle du médecin, du sorcier, du magicien parfois. Il est celui qui soigne le corps ou l'âme. C'est aussi une constante dans les contes que cette figure du sage qui varie mais demeure. Il est celui qui porte les remèdes de la nature ou du bon sens, qui fait autorité morale en assimilant l'expérience à la connaissance. Dans les contes, l'expérience via le voyage, le déguisement, le déménagement, exprime souvent la transformation comme une expérience de dévoilement de la vérité. Ainsi, le conte serait une incitation par l'imaginaire à interpréter le réel et à se rapprocher d'une forme de vérité qui reste finalement assez ouverte, qui est proposée au regard et à l'écoute. On retrouve cette expérience de la vérité dans un second tout petit conte, extrait de Petit conte pour une révolution adapté par Marc Ciasso. Celui-ci, que je vais vous lire, s'intitule « Le sage fou » et il témoigne justement de la vérité des hommes de pouvoir, ici des rois, qui se révèlent dans l'expérience de transformation et de dévoilement. Il y a bien longtemps de cela, un sage avait tenté d'introduire la vérité à la cour. Il n'y était jamais parvenu. Le fou du roi vint à tomber malade, sans espoir de guérison. Le sage s'avisa de prendre sa place. Il l'imita avec tellement de talent qu'il parvint à lui succéder dans sa charge. Mais la vérité ne gagna rien à ce déguisement. Dans la bouche de la sagesse, elle avait offensé le souverain. Et dans celle de la folie, elle l'amusait sans améliorer sa conduite. Désespéré, le sage abandonna son déguisement de fou et quitta le palais en grommelant « Il n'y a rien à faire, tous les rois sont incorrigibles. » Il est donc souvent entendu que la littérature peut changer, réinventer le réel. On entend souvent que la philosophie serait une démarche exclusivement rationnelle, qui ne saurait pas grand-chose de la sensibilité, et prétendrait tendre vers une objectivité absolue de la réalité. Et je voulais partager pour terminer avec vous une citation qui me semble réconcilier ces deux visions autour du conte. C'est une citation d'un journaliste suédois du XXe siècle qui, après lecture des écrits du prince Guillaume de Suède, des écrits de contes qu'il a fait à partir de voyages en Afrique de l'Ouest, ce journaliste considère donc, je le cite, que les contes s'adressent tous ceux qui aiment voyager dans le fantasque et qui ne sont pourtant remués que par le réel. C'est-à-dire une bonne façon pour les hommes qui sont remués, qui ont envie de connaître le réel, de mieux l'entendre, de mieux le comprendre, de finalement, par la fantaisie, l'imaginaire, se laisser la possibilité de le faire, sans pour autant être complètement dans la déréalisation des choses. Sur ce, je vous souhaite de bonnes écoutes, de belles lectures de contes durant cette propice saison d'hiver et bien sûr de très joyeuses fêtes de fin d'année.
Merci beaucoup, Émilie. Moi, j'ai beaucoup aimé ces deux tout petits contes et tout le reste de l'histoire.
J'en aurai d'autres si tu veux. Je vais te les prêter.
Et je pense que je vais rentrer chez moi et aller fouiner dans ma bibliothèque pour retrouver tous mes livres de contes.
Ouais, au bout d'un moment.
On retrouve le prochain Croque-Philo en 2021 maintenant.
C'est ça, le 11 janvier si la date est exacte.
Ouais, je crois que c'est ça.
Nous ne savons pas trop d'ici là ce qui aura vraiment changé pour nous dans nos vies sociales et sanitaires, mais nous aurons bel et bien changé d'année. Et c'est au thème du changement que nous consacrerons ce Croque-Philo de rentrée 2021.
Eh bien, j'ai hâte de le découvrir. Merci encore, Émilie.
Bonne fête, à bientôt à tous.
Ouais, bonne fin d'année également. C'est vrai qu'on arrive dans la période de fin d'année. Moi, j'ai du mal à m'en rendre compte. Bon, on a quand même quelques émissions avant de se souhaiter des bonnes vacances ou un bon courage ou tout ce qu'on veut.
Oui. Pour moi, c'était la dernière de l'année. C'est pour ça que je me
dis
à tous au
revoir. Ouais. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette oreille curieuse dont vous pouvez retrouver le podcast en ligne sur le site de Radio G à la page de l'émission. On se retrouve demain à 18h10 et nous serons avec le THV, le Théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy d'Anjou, qui s'apprête à rouvrir ses portes et je crois que ça nous réjouit tous et toutes de voir des choses qui commencent à réouvrir. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit des choses positives, négatives, par mail à prog.radio-g@gmail.com ou via les pages des différents réseaux sociaux de Radio G. À 19h, dans quelques minutes, vous allez retrouver Ça dégouline dans le cornet, l'émission rock'n'roll du lundi soir. Et d'ici cette émission et même après, je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.
a connection. Full screen in high res is for members only. Upgrade to pro and start streaming. Establish a connection.
FM.